Salut à tous, c'est Bakang et Dicom et vous êtes sur le podcast Lucky Day.
Lucky Day, c'est un podcast sur le business, le branding et la culture pour vous donner les outils pour entreprendre plus facilement. Merci à JVC pour les casques audio.
Et merci à WeWork pour l'espace de coworking.
C'est parti.
Let's go.
Avant de commencer, je voudrais remercier tous ceux qui prennent le temps de mettre des commentaires et de mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts. Ça fait super plaisir. N'hésitez pas, mettez-nous des reviews. Mettez-nous 5 étoiles si vous aimez les épisodes et mettez un petit commentaire, ça nous fait remonter dans le classement et c'est génial. C'est parti.
Aujourd'hui, on discute avec Kelly Massor, la fondatrice des Secrets de Loli. On va parler team management, on va parler finance, on va parler autofinancement, on va parler de ses débuts, en fait, quand on commence avec pas grand-chose dans sa cuisine et ensuite, on va parler des différentes étapes de transition jusqu'à l'industrialisation. Kelly a été super généreuse, vous allez le voir, transparente. Il y a une seule règle qu'on demande à tout le monde de respecter, c'est d'être sans bullshit et sans filtre. Et du coup, Kelly a vraiment respecté cette règle-là. Je pense que vous allez vraiment profiter de cet épisode. C'est un épisode à écouter plusieurs fois. Il est très enrichissant. Avant de lancer ce nouvel épisode, je sais que vous êtes impatient. Il est important pour moi de vous rappeler qu'on a un nouveau format qui s'appelle Lucky You, dans lequel on parle investissement, finance, épargne personnelle, immobilier, les nouvelles monnaies, la bourse, les stocks, etc. L'idée pour nous, c'est d'accompagner un peu tout le monde sur l'éducation financière en même temps que la nôtre. On invite des experts avec qui on discute, qui nous donnent des tips, qui nous donnent des tools. Ça, c'est tous les mercredis. Ça s'appelle Lucky You et c'est une formule qui sera payante. C'est la première qu'on fait de payante aujourd'hui. L'idée est simple. C'est d'avoir une sorte de modèle de souscription qui va coûter 6€. Et tous les mois, vous allez recevoir du contenu exclusif, seulement disponible pour vous, sur les sujets de finances personnelles. La raison pour laquelle on le fait, c'est très simple. On me demande aussi pourquoi c'est payant. Eh bien, écoutez, c'est parce qu'on crée du contenu, on crée de la valeur, vous avez pu le voir pendant un an avec Lucky Day et aujourd'hui on veut aller plus loin mais on fait de la vidéo, on fait de l'audio et on prend beaucoup de temps surtout à le faire et on se dit qu'il est normal de mettre une valeur qui est symbolique hein, aujourd'hui parce qu'on pense que notre travail vaut beaucoup plus que 6€ par mois mais qui va nous permettre de pouvoir financer au moins la base de tout ce travail qu'on essaie de vous fournir et toute cette information qu'on essaie de vous donner pour, j'espère, gagner 6 mois, 1 an, voire 2 ans sur le travail que vous faites. Donc voilà, sans plus attendre, je vous laisse avec cet épisode qui est magique. J'en profite pour remercier encore Kelly, c'était vraiment top. Allez, papier, stylo, c'est parti.
On va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous donner un peu des chiffres ou l'état d'aujourd'hui des Secrets de Loli? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui?
Aujourd'hui, les Secrets Loli, donc c'est une entreprise effectivement qui a commencé donc dans ma cuisine.
Ouais.
Et maintenant, on est une entreprise, donc on vient d'embaucher notre 18e salarié.
Bravo.
Et Et on fait 5,5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020.
Ouais.
On est présent dans 6 pays, 3 continents et dans 600 points de distribution.
Ok. Est-ce que tu peux, j'aurais dû te demander juste avant, qu'est-ce que vous faites exactement? Je sais que vous travaillez sur les cheveux. Produits...
Ouais, en fait, on est une marque de cosmétiques capillaires naturels pour les cheveux à texture. Et un cheveu à texture, c'est quoi? C'est un cheveu non lisse, crépus, bouclé, frisé, ondulé.
Ok. Alors, tu sais, ce qui m'intéressait vraiment avec votre histoire, c'est la progression que vous avez eue. Souvent, on entend parler des progressions qui sont super rapides. Du jour au lendemain, ça explose. Toi, ça fait, tu viens de me dire, je crois, 8 ans que vous existez, c'est ça?
Ça fait depuis... En fait, j'ai commencé en auto-entreprise en 2009 dans ma cuisine.
Tu vois, donc 2009, on est en 2021. Et du coup, j'ai l'impression de vous voir partout, vraiment partout, depuis 2, 3...
C'est ça.
4 ans, tu vois, on va dire. Ouais. Et donc, ouais, je voulais savoir qu'est-ce qu'a été cette expérience, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as compris, en fait, dans ton cheminement qui a fait que, du jour au lendemain, entre guillemets, hein, vous avez commencé à prendre un nouvel essor?
Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, quand j'ai créé mon entreprise en 2009, j'avais 25 ans. Donc déjà, il faut une certaine maturité pour se dire, tiens, je vais me lancer, je vais créer ma propre activité. Donc, il y a eu cette étape-là d'auto-entreprise de 2009 à 2012. Pendant 3 ans, vraiment, c'était de l'auto-entrepreneuriat. L'intégralité des produits, à savoir qu'ils étaient formulés et fabriqués par moi-même au labo à la main.
Ok, on va parler tout à l'heure de la partie logistique, ça va être très intéressant.
Voilà, Et de 2012 à 2015, vraiment, on était sur un processus de développement vraiment de petites TPE, parce qu'en fait, le marché n'était pas encore assez mature. Donc vraiment, j'étais une marque de niche, dite de niche, tu vois. Et en 2015, donc j'ai eu mon premier fils, Marco, en septembre 2015. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'industrialiser déjà mon process.
Ok.
Donc, je fais toujours la R&D, le développement des formules, mais maintenant, je transpose mes recettes directement à l'usine ou chez le façonnier qui fabrique en plus grand lot, ce qui m'a permis un premier saut de croissance, finalement, parce que j'avais que deux mains. Donc, forcément, tu étais réduit par ton chiffre d'affaires, tu ne pouvais pas aller plus loin. Ouais. Et une fois que j'ai installé le processus d'industrialisation en 2015-2016, bah déjà, on est passé de 350K à 750K.
C'est dingue ça.
Voilà, parce que c'est là où j'ai pu aller chercher des distributeurs. Donc ça a été la première grosse étape de la marque. Et ensuite, en 2017, j'ai embauché un directeur de développement commercial.
Donc, avant ça, donc tu démarchais toute seule ?
Ouais. Jusqu'à 2017, jusqu'à octobre 2017, je démarchais toute seule.
Alors ça aussi, on va en parler du process, comment ça s'est passé, ce qui s'est passé, mais je te laisse continuer.
Et donc, toute seule, je faisais 750K. Ouais. Et j'ai embauché en 2017 un directeur de développement commercial qui s'appelle Franck, pour différentes raisons, parce que ça a matché et que voilà, on a décidé de prendre des risques finalement. Okay. Et à ce moment-là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on veut faire ? Qu'est-ce qu'on veut faire de la marque finalement ? Est-ce qu'on veut rester une petite PME ? Quelles sont mes ambitions ? Et moi, je lui ai dit, moi, mon rêve, c'est d'entrer chez Monoprix et de faire mon premier million de chiffre d'affaires pour mes 35 ans. Et c'est là où on a décidé d'installer le process et on a dit, OK, bah, pour pouvoir de toute façon scaler, il faut créer toutes les conditions du développement et ça passe par différentes étapes. Donc, c'est ce qu'on a préparé, en fait, finalement, de 2017-2018, mi-2019, mon équipe de base s'envole en éclats. Parce que finalement, il y a une cassure dans l'équipe. Ouais. On n'a plus du tout les mêmes goals. On se comprend plus.
Ça, c'est c'est la partie où tu te rends compte que ton équipe de base n'est pas forcément faite pour t'accompagner dans ta vraie croissance.
Non, c'est exactement ça.
Puis après, l'étape d'après, c'est une autre équipe.
C'est ça. Et en fait, en juillet 2019, on se retrouve que lui et moi et la fille qui est à l'administratif, mais qui est une amie que je connais depuis que j'ai l'âge de 16 ans, tu vois. Et on se retrouve à trois dans la boîte. Et donc là, on repart sur un process de recrutement et on embauche Amélie, qui est une killeuse, qui est pas du tout dans la cible en plus. Donc, c'est ça qui est très, très intéressant, mais qui est une killeuse, qui a déjà scalé dans une autre boîte. Et cette fois-ci, c'était une boîte... plus dans la tech.
Ouais.
Et une fois qu'elle rentre, ben, par exemple, le compte Insta, il passe de 15K à 111K aujourd'hui où je te parle.
Bon, là, tu nous as donné énormément d'informations et on va backtrack et prendre tout dans les détails. La première chose.
Prenez
notes. Tout le monde, là, prenez des notes, super important. Première chose, c'est je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question ou qui ont du mal à. Et nous, c'était le cas. À passer de le faire soi-même, puis à déléguer, industrialiser. Et la deuxième chose, c'est, tu as parlé un moment du fait que c'était de la niche, et je trouve ça intéressant parce que c'était de la niche, mais pour qui ? Dans le sens où, pour nous, clairement, c'est
pour
pas
tout
une
le
niche.
Monde.
Dans le sens
pour
où,
tout
en
le
temps. Alors, je veux bien que tu m'expliques, parce que j'ai cette vision externe, et je vais te la donner, que le cheveu frisé, etc., c'est un cheveu qu'on voit partout. Et qui est
aujourd'hui,
très...
tu le vois partout. Aujourd'hui, tu le vois partout.
C'est vrai.
Et ça, c'est mon travail de ces 10 dernières années. Bon, c'est exactement ça. En fait, il faut le dire, on est en France. Et si tu veux, mon commercial, il a 50 ans. Il a 20 ans d'expérience dans la coiffure. Il arrive, il me dit, je vais arriver, t'inquiète, ça va être easy. Je vais appeler mes contacts. On va rentrer direct en distribution à droite, à gauche. Ça va se passer fluide. OK. Et lui, il s'est mangé des bâches. Pam, pam, pam. Et il comprend pas. Et c'est là où tu vois, tu dis, en fait, il y a un marché. Mais souvent, ce sont des hommes blancs, quarantenaires, cinquantenaires, décideurs, et qui comprennent pas où est-ce que tu veux en venir, tu vois. Bah, des shampoings, on en vend partout, tu vois, qu'on te répond. Ouais, mais en fait, des produits adaptés pour ce type de cheveux, En vrai, mis à part le défrisage ou les imports américains, il n'y en a pas des masses. Mmh. Et en fait, il n'y en a pas ici. Aux États-Unis, il n'y a que ça dans les supermarchés. Mais ici, le reflet, en fait, justement, de toutes ces femmes à cheveux crépus, bouclés, frisés et ondulés ne se ressent pas dans les étals. Mmh. Donc, je vais remonter plus loin. Et je vais te dire, au début, c'était une niche. Quand j'ai commencé en 2009, j'étais la seule marque française entièrement fabriquée à la main, dédiée aux cheveux, à l'entretien du cheveu au naturel. Mmh. J'étais quasiment la seule. Donc, tout de suite, on se dit, ouais, cheveux afro, la goutte d'or, château rouge ou ce genre de choses-là. Sauf que là-bas, c'était pas des produits pour garder son type de cheveux au naturel. Tu vois, il n'y en avait pas des masses. Donc, c'est basse qualité ou ce genre de choses. Tout le monde pense que c'est une niche, mais il est vrai que 6 femmes sur 10 dans le monde n'a pas les cheveux raides.
Oui, c'est ça.
Et pourtant, 80%, quand tu vas dans un supermarché, et 80% de l'offre, c'est que pour les cheveux raides.
Ça, pour moi, c'est l'illustration parfaite de ce que la société renvoie comme étant l'épitome de la beauté.
Et donc, c'est ça.
Tu as un type de cheveux, un type de produit.
Une case.
Qui est censée être celle dans laquelle tout le monde doit rentrer ou vouloir rentrer.
Exactement. Et donc, si tu veux, en tant qu'un petit peu rebelle de la société, j'ai pas envie de rentrer dans cette case parce que finalement, le problème, c'est pas mes cheveux, c'est les produits qui sont pas adaptés. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'apprendre toute seule à formuler des cosmétiques. Voilà la nuance. Aujourd'hui, ici, on considère ça comme une marque de niche, mais en vrai, mon potentiel, et c'est pour ça que tu as l'impression de me voir grandir à l'infini, mon potentiel, il est infini.
Bah, c'est ça.
Il est infini.
En fait, moi, c'est ça qui me fait doucement rigoler et j'espère que ça va se révéler être vrai. C'est que c'est le contraire en réalité.
C'est ça.
Non, en fait,
on n'est pas une marque de niche.
Tu n'adresses pas la niche. C'est toi qui adresses la masse et c'est eux qui adressent une niche. Mais la société est faite de telle façon qu'il te montre que cette niche comme étant la masse.
Voilà. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que mon potentiel de croissance, il est assez impressionnant. Je pense qu'entre 2017 et 2019, j'ai 537% de croissance. Mais sachant que les chiffres de 2019, je me suis arrêtée en 2019, j'ai clôturé à 1,8 million d'euros. Mais en 2020, j'ai clôturé à 5,5. Donc, je suis à un pourcentage, si tu veux, qui est à plus de 3 chiffres. Entre 2017 et 2020, je suis à plus de 1000%.
Bravo.
Donc, finalement, c'est quelque chose qui fait que, au début, on pensait que c'était une niche, mais il a fallu éduquer les clientes, les distributeurs et la société aussi. C'est-à-dire que j'ai fait un travail de pédagogie aussi sur les coiffeurs, sur les distributeurs, sur la cliente finale et sur les gens qui ne sont pas justement, qui n'ont pas ce type de cheveux-là, envers le regard sur ce type de cheveux-là.
Alors, du coup, moi, j'aimerais bien savoir, donc, quand tu étais, quand tu créais toi-même tes produits, à qui tu revendais? Donc, j'ai l'impression, est-ce que tu revendais au coiffeur? À qui tu revendais tes produits au début quand tu faisais ça chez toi?
La cliente finale.
OK.
Tout de suite, j'ai commencé avec la cliente finale.
Sur Internet, tu utilises quoi?
Sur Internet, d'abord. Et ensuite, j'ai ouvert ma petite boutique en 2012 lorsque j'ai quitté le statut d'auto-entreprise.
Ok. Une boutique en ligne je veux dire une physique.
Une petite boutique physique. J'ai une boutique physique dans le 12e à Paris depuis 2012.
Ok, je ne savais pas du tout. Bonne nouvelle. Écoute, donc du coup, tu vends sur Internet. Comment ça gère, en fait, comment tu gères tout ce qui est KPIs, etc. Enfin, c'est important parce que aujourd'hui, en tout cas, encore plus qu'avant, quelqu'un qui se lance sur Internet, moi, je pense à toutes ces jeunes femmes et ces hommes qui veulent lancer des produits cosmétiques, qui ne comprennent pas forcément l'importance de suivre le tracking de ton panier, pourquoi ton panier, tu vois.
Je suis pas une bonne élève pour ça. J'ai jamais fait un prévisionnel de ma vie jusqu'à l'entrée de Franck en 2017. Dans ma boîte.
Est-ce que tu as senti la différence?
En plus, il est de formation comptable de base avant d'être commercial. Alors, je peux te dire que les chiffres, il m'en a fait manger. Mais c'est le comptable n'est pas. Le comptable, il est rassurant et le comptable, il a un esprit très terre à terre et surtout prudent. Du coup, quand nous, on est rentré, il s'est dit bon, on va essayer de clôturer à 1,2, 1,4. Mais on remet nos chiffres à jour. Et on a nos chiffres aujourd'hui, effectivement, journaliers, quotidiens, tu vois. Et donc, c'est très bien parce que ça me permet aussi de comprendre que mon entreprise a grossi, grandi, tu vois. Donc, ça permet de... Tu sais que ce ne soit pas un choc. Tu vois, je vois progressivement les chiffres augmenter. Après, j'ai ouvert mon site internet comme ça, hein, sur PrestaShop, par une nuit de voilà, par une nuit d'insomnie. J'ai fait mon catalogue, j'ai fait mes photos. J'ai bien compris qu'avoir un beau packaging, enfin avoir un packaging bien élaboré et de jolies photos, ça aide énormément. Ouais. Et ensuite, finalement, c'est vraiment, j'ai eu une clientèle pendant les trois premières années au bouche à oreille.
Ouais.
Mais les gens étant satisfaits, ben les copines des copines, et après c'est les mères, les amis, les sœurs. Et finalement, je me suis mis à avoir vraiment beaucoup de monde, ce qui fait que mes premiers distributeurs m'ont appelé. Et encore aujourd'hui, chez Secret de Loli, j'ai prospecté peut-être 2 mois dans toute ma vie.
Ok, donc quand tu as fait tes 700K, là ?
Ouais.
Les
gens m'avaient appelé. Oui, bonjour, on voudrait... Ouais, on nous demande Secret de Loli. On voudrait te distribuer, en fait. Et ça a été comme ça pour quasiment l'intégralité de mes clients. Je n'ai aujourd'hui... je reçois des dizaines de demandes de distribution que je trie chaque jour. Je n'ai pas eu le temps de prospecter. Je n'ai pas eu le temps.
C'est énorme. Et du coup, quel type de client ? Est-ce que c'est des gros engins de distribution ou est-ce que c'est des petits salons ? Enfin, tu vois, comment est-ce que tu gères les deux ?
Bah, en fait, justement, quand il est rentré en 2017, il a dit, pour un gros client qu'on rentre et qu'on rentrera en face, il faut qu'on ait au moins l'équivalent de 5 petits clients.
Mmh.
On ne doit pas être dépendant du même client.
Yes.
Le client qui, tout d'un coup, arrête de te commander et te dit bah, « Maintenant, tu me fais moins 10%, sinon j'arrête mes commandes », t'es mort.
Exact.
Chaque gros client qu'on rentre, on fait la balance toujours. C'est pour ça qu'on a un équilibre dans tous nos clients qui font que s'il y en a un qui s'en va, eh ben, hop, on sait qu'on ne sera pas… Et il y a ça qui... ouais, on sera pas asphyxié et il y a ça qui joue. Et ensuite, il y a aussi une règle que je respecte, parce que moi, je connais beaucoup de gens, ils ont des gros contrats, on leur propose des gros contrats, mais ils ne peuvent pas le saisir parce qu'ils n'ont pas cette capacité.
Mmh.
Donc, quand on a structuré plusieurs choses. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a fait sauter notre logisticien. Il était pourri. Donc, moins de SAV, plus vite tu livres tes pros et tes clients en B2C, bah, plus vite ils recommandent. Donc, voilà, donc les délais de livraison, tout ça, les coûts. Donc, on a changé de logisticien. On a revu nos contrats à la banque pour créer un fonds de roulement, en fait. En fait, on a financé notre propre BFR parce que je te rappelle qu'on est en autofinancement.
Ça, c'est le point qui est important quand même. Elle est en autofinancement. Et c'est pas rien. On sait que…
On est vierge de tout emprunt,
ouais.
On est vierge de tout emprunt. Alors, certes, en 2017, quand il s'est mangé quelques bâches, parfois assez violents, en fait, on a essayé d'aller BPI, banque, etc. Puis, tu sais, les gens, ils te regardent, ils ne comprennent pas. Mmh. Ouais, non. Tu sais, parce que justement, tu n'es pas une licorne.
Mmh.
Et ils se disent, non, mais on va pas reprendre notre thune tout de suite. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais.
Et du coup, on n'avait pas besoin de beaucoup. En fait, ce qu'on avait besoin, c'était de financer notre stock.
Mmh.
Et en fait, on a financé les stocks.
Surtout quand tu vas avec…
Personne ne veut financer de stock. Personne. Les banques ne financent pas de stock, donc il fallait courir. Moi, en 2017, un gars, il sortait 250K, il avait ma boîte. Aujourd'hui, ce ne sera pas la même. Aujourd'hui, c'est mort. Je ne lâche pas pour moins de…
Intéressant. Continue, je t'en prie.
C'est ça le truc, c'est qu'on a structuré d'abord. Et donc, quand il est arrivé, il a dit déjà, on pose le terreau, on creuse, on pose les bases. On pose les bases des futurs services qui vont grandir. Pour que quand on va grandir et d'un coup, il y aura des sauts de croissance, et ben en fait, la base tienne.
Mmh.
Et donc, en 2017, il rentre fin 2017, on rechange les packagings.
Mmh.
Il fait changer les packagings parce qu'on se rend compte que j'ai voulu rentrer dans un moule qui ne me correspond pas entre les packagings de 2009 qui étaient hyper colorés, etc. et le packaging de 2015. Et ben en fait, c'était blanc avec un liseré jaune. C'était moche parce que je voulais rentrer en pharmacie de base. Mmh, et en fait, absolument pas. Absolument pas. C'était pas ma personnalité.
Ok, donc tu as pivoté parce que tu as compris que ce n'était pas forcément ta cible première.
Ouais. Oui, puis que finalement, non, quoi. Et en fait, reprenant…
C'était les ventes, c'est quoi ? Il y avait un… Tu voyais que tu vendais…
Il ne voulait pas, il ne comprenait pas. On ne vendait pas beaucoup. Un carnet d'exigences, mais alors vraiment… incroyable. Voilà, ça veut de la gratuité. Ça veut des animations. En fait, ça veut juste poser le truc et que ça parte tout seul. Ouais. Sauf que quand t'es petit, il faut une force de vente, il faut une force d'animatrice. C'est pas possible pour une marque de niche de faire ce genre de choses-là. Tu peux demander ça à Caudalie, mais tu peux pas demander ça à Secret de Loli à l'époque. Donc ça a beaucoup joué. Et ensuite, une fois qu'on a structuré la logistique, qu'on a compris qu'on nous prêterait pas d'argent, et donc on a mis en place des moyens autres, style la facturage.
Tu peux expliquer le concept de la facturage? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas.
Alors, le principe de la facturage, c'est que tu vas voir ta banque vérifie que tes clients sont solvables. Et en fait, moi, au lieu de me payer à J plus 30 ou J plus 60, je mets tout de suite, je vends la facture à ma banque. Ma banque va garder, va me payer 90% de cette facture. Elle va prendre, par exemple, 5% de commission. Je te donne des chiffres qui sont hauts, mais c'est plus bas que ça. Elle va prendre 5% de commission pour elle à la fin. Elle va garder 5% de ta facture. Elle va se payer là-dessus. Mais elle va te donner l'argent 2 jours plus tard. Et c'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai mis un, voire deux gros clients que j'avais réussi à signer en 2017 et je les ai mis à la facturage. Et ça m'a donné mon fonds de roulement. Aujourd'hui, moi, je suis très transparente, hein, mais Secret de Loli, c'est plus de 1,5 million sur son compte en valeur. Les factures sont réglées, les salaires sont payés, les charges, les impôts. Voilà, on a 1,5 million aujourd'hui pour faire des investissements et c'est pour ça qu'on a embauché 4 personnes encore ce mois-ci, qu'on a investi des nouveaux locaux parce que finalement, qu'on a mis 3 ans de caution sur les nouveaux locaux parce que, en fait, on a fait notre BFR depuis longtemps.
Et tu vois, et ça, c'est beau. Ça, c'est vraiment beau d'être à l'équilibre. Je vais revenir un tout petit peu en arrière juste pour encore que les gens puissent noter tout ça. Il y a un moment où tu as eu le déclic et tu t'es dit… Je vais passer de la cuisine à trouver un sous-traitant, entre guillemets. Comment se passe la recherche? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question bête, mais comment est-ce que tu trouves le sous-traitant? Moi, je sais qu'on a cherché pendant un moment et du coup, c'était Google. Et puis après, finalement, on s'est dit, tu sais quoi, on va faire notre propre usine, tu vois. Mais je pense qu'à refaire, je partirai directement avec un sous-traitant. Comment est-ce que…
Il y a eu 2 choses. Un, je suis tombée enceinte, donc au bout d'un moment, soulever des seaux, c'était compliqué, mais c'est vrai que j'aurais pu prendre quelqu'un pour me remplacer, etc. Et deuxio, en vrai, je vais être très transparente encore, je me suis pris v'là les bâches. On me rappelait pas. On me rappelait pas, on me faisait pas de devis ou autre. Et finalement, la chance a fait que j'ai quelqu'un qui m'a rappelé un samedi. Enfin, genre, j'ai envoyé un mail le samedi matin, on me rappelle le samedi midi, on discute et en fait, ça match. Ça match et
c'est là-bas ou pas? T'as tout fait à distance?
J'ai tout fait à distance et ensuite, on a discuté à distance de qu'est-ce que j'allais sous-traiter. Donc, en fait, j'ai pas donné toute ma vie tout de suite. Hein, j'ai donné un produit, deux produits progressivement. Quand j'ai vu que tout allait bien, en fait, j'ai tout transposé. Et puis, je suis allée sur place aussi pour voir les conditions de travail, pour voir que tout était carré et tout était carré. Donc voilà. Eux, en fait, ils cherchaient un tout petit client pour éviter, tu sais, les zones de trous. Ouais. Tu vois, quand tu ne travailles pas pour des gros, il y a des zones de trous, donc il fallait occuper les gens. Donc en fait, nous, on tombait bien parce qu'on comblait un trou. Et c'est ce qui s'est passé chez notre nouveau logisticien. Il travaille pour Mouette et Chandon, il travaille pour les bijoux. Et en fait, au début, ça cherche un petit client. Et puis finalement, chez notre logisticien, on est peut-être l'un de ses principaux clients maintenant. Mais tu vois, c'est petit à petit. Ouais. Par contre, c'est vrai que quand on préparait les gens à notre croissance, on leur disait « Ouais, tenez-vous prêts. Ouais, ne vous inquiétez pas. » Et puis, ils se mangeaient un tsunami et puis « Oh merde !» on vous a prévenu depuis le mois de juillet que le Black Friday, c'était la mort chez nous.
C'est beau ça. Super intéressant. Du coup, j'aimerais bien qu'on parle du moment où tu as décidé. En gros, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a parlé du début. Donc, tu es dans ta cuisine, tu fais toi-même, tu fais déjà du chiffre. J'aimerais quand même appuyer sur le fait que il y avait des commandes entrantes, mais derrière, ça veut dire que ou ton branding était fou, entre guillemets, pour l'époque, ou tu avais un bouche à oreille qui était de feu. Qu'est-ce qui faisait que les gens…
Le bouche à oreille, parce que j'ai jamais fait de publicité en vrai. Par contre, quand j'ai pris un jour un RP juste pour 2 mois et qu'il envoyait des produits, les journalistes, elles ont kiffé. J'ai eu tout de suite le Parisien, le 20 minutes. C'est juste un petit encart, Chantilly, meilleur produit que j'ai connu cette année ou autre. Donc déjà, il y a eu ça. Si tu veux, Secret de Loli, on a une super image avec vraiment une communauté qui se fédère de plus en plus et qui est très engagée. Après, les gens, ça va dans le storytelling. Jusqu'à maintenant, moi, je me montrais pas. Jusqu'à il y a 2 ans.
J'ai remarqué ça.
Les produits. Ouais. Parce que pour moi, c'est les produits qui font le taf. Ouais. C'est les produits qui font le taf. Ensuite, il y a eu le packaging. Et puis, ben, maintenant, je me mets plus en avant. Pourquoi? Parce que, déjà, je veux donner de l'espoir aux gens en se disant qu'on peut rien, ne pas être diplômé. Si tu mets, tu vois, toute ta âme, tout ton cœur, tu lâches pas l'affaire. Si tu es déterminé, tu peux arriver à quelque chose et parfois de très, très belles choses.
Ouais.
Donc voilà. Après, c'est vrai que Monoprix, c'est pareil. Hein. Mais la règle qu'on suit, et c'est celle-là que je voulais te dire tout à l'heure, c'est qu'on n'absorbe jamais un client qu'on n'est pas prêt de prendre.
Développe, s'il te plaît.
Beaucoup de gens font l'erreur. Oh mon Dieu, j'ai un contrat à 500 000. Ouais, tu as chopé le client, mais tu n'as ni la capacité de prod, ni le stock, ni l'argent pour financer ton stock. Tu fais comment? Tu regardes le contrat hein, et tu vas le regarder longtemps. Tu vas aller à la banque, elle te dit bah, « je finance pas tes stocks hein. ». Tu vas faire quoi? Tu vas brader ta boîte à un mec qui va venir mettre ses billes, il va lâcher un billet, pour lui, c'est rien, c'est comme s'il faisait un investissement immobilier. Et puis bah derrière, bah, tu partages le gâteau, alors que de base, le contrat, tu l'as chopé, quoi. Tu l'as. Tu vois ou pas?
Donc,
moi, depuis toute petite dans ma cuisine, je ne prenais pas un client que je n'étais pas en capacité d'absorber. Je préfère dire non, je ne suis pas prête. Par contre, on se reparle dans 6 mois et je mets toutes les conditions pour être prêt. Les gens, ils pensent qu'ils vont rater. Mais s'ils te veulent vraiment, si tu es une marque qui fonctionne ou autre, ils vont préférer être livrés en temps et en heure, ne pas avoir de rupture de stock, etc., etc. Plutôt que tu leur dis oui, tu fais la première livraison et tu ne feras jamais le réassort. Tes réassorts seront toujours incomplets.
Sincèrement, ça, c'est une règle d'or qu'elle est en train de dire là. Je sais que nous, on a galéré pour nos premières commandes Monoprix qu'on a prises. C'était genre
toilette.
On a galéré comme jamais. Et du coup, non, tu as dit des trucs super intéressants. L'un des trucs que tu as dit, c'est j'aimerais en savoir plus, c'est tu vois, tu dis ok, bah, je passe à c'est le management, si tu veux, de sous-traitant. Tu vois, c'est qu'est-ce que c'est que le taf? En fait, quand tu passes de le faire toi-même à sous-traiter, faut pas croire qu'il y a plus de taf du tout. Il y a des checkings, il y a tout ce qui se passe. Comment ça se passe, ça?
Bah, ça se passe qu'en fait, tu installes des process. Et en fait, tu te cales aussi sur les process de l'usine. Et tout de suite, ça te remet des idées en place aussi. Parce que si t'as oublié de signer ton BAT pour tes packaging, ben, chaque semaine compte. Et quand t'es sur un délai de 8 à 12 semaines pour un packaging, et ben, tu te manges une rupture de stock.
Yes.
Donc, ça t'apprend la discipline. Et j'ai eu des problèmes de rupture de stock en 2018 qui m'ont coûté, je pense, l'équivalent de 200 000 euros de chiffre d'affaires.
Tu vois.
Parce que, mis bout à bout, toutes mes micro-ruptures, pas lui, et à la fin, j'ai perdu 2 mois de chiffre d'affaires. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en janvier 2019? Je suis allée à l'usine avec mon directeur co, avec mon prévisionnel, et j'ai passé le bon de commande annuel tout de suite, et j'ai lissé les livraisons. Et du coup, eh ben, j'ai une année en 2000. C'est pour ça. Je prévoyais de faire entre un 2 et un 4, et c'est pour ça que j'ai fait un 8. Parce que j'ai jamais eu de rupture. C'est un cercle vertueux, en fait. Et j'ai fait la même chose en janvier 2020. Je suis revenue, bah, j'avais doublé cette fois-ci les quantités. Et je fais des réunions où je surveille les stocks. Le stock, c'est le nerf de la guerre. S'il y a un truc que mon directeur commercial m'a appris, le stock, c'est le nerf de la guerre. T'as pas de stock, tu fais pas de thunes.
C'est clair. Tu dis des trucs vraiment intéressants. Et j'entends un truc que j'entends avec tous les entrepreneurs à succès ou qui sont dans cette direction-là à qui je parle, c'est l'importance de l'anticipation. Il faut avoir cette capacité à pouvoir se projeter dans un temps court et dans un temps long et d'exécuter.
Les deux à chaque fois. Court et long.
Court, c'est... long.
C'est la clé.
Et l'exécution. Et du coup, moi, je veux savoir comment est-ce que tu exécutes? C'est quoi ton mental space, tu vois? Parce qu'il y a ce truc où il y a des gens qui créent des choses ou qui veulent créer des choses et qui n'arrivent pas à passer à l'exécution. Et quand je te parle d'exécution, je veux dire être à cheval, même si on le sait, hein, c'est très dur de rester organisé et tout. Mais
merci.
Moi, je te dis, même quand on pense qu'on n'est pas organisé, quand on regarde à côté, on est beaucoup mieux organisé que beaucoup, tu vois. Donc, en fait, c'est quoi ce truc qui te fait te dire, eh, vas-y, mais en fait, il faut que j'y aille là, il faut que je le fasse, bam, 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 ça doit rouler.
Bah, le truc, c'est aussi dans le caractère. Il y a plusieurs choses. Il y a le caractère, et c'est vrai que c'est pour ça que je fais un bon binôme avec mon directeur co, mais il y a le caractère, c'est-à-dire que moi j'ai une idée, c'est action-réaction. Par exemple, tu as dû voir la pub qui a été diffusée sur TF1 et M6.
Ouais.
Je l'ai décidé 3 semaines avant.
Ok.
Je me suis réveillée, j'ai dit, bon les gars, on va faire notre première pub. On m'a au bureau, on m'a regardé, on m'a dit pardon. Et en fait, si tu veux, une ancienne équipe aurait dit, ah non, c'est mort, non, non, non. Eux, ils ont dit, ouais, bon, bah, on va essayer, on va le faire. En tout cas, on va essayer de le faire. Et franchement, ça a cartonné. En 3 semaines, on a fait le shooting plus la vidéo. J'ai fait mon carnet d'adresses. Chacun a fait son truc. Certes, c'était un taf de ouf. Mais à la fin, ouais, quoi. On a fait une pub et notre première campagne.
Vous l'avez fait en interne ? C'est vous qui avez tout fait ?
Tout.
Top.
Tout, sauf effectivement le vidéaste qui a tourné et la musique. Mais en tout cas, tout a été fait en interne. Et c'est une campagne de direction artistique 100% Black Owned.
Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Tu as dit un truc intéressant tout à l'heure. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne se rendent pas compte que la seule valeur de leur boîte, c'est l'equity. Tu vois, c'est ce que tu possèdes en réalité. C'est, si tu veux, la seule différence entre toi et un salarié, c'est cette idée de te dire que tu possèdes une partie de ta boîte que si tu revends, va valoir tant et va faire passer de ce niveau social à ce niveau social. C'est le pari en fait qu'on fait en réalité. Au-delà de ce why qu'on a tous pour le produit, il y a aussi ce côté financier. On vient souvent demander, voilà, il y a tel investisseur qui veut prendre mes parts pour tant, etc. Et moi, je voulais avoir ton point de vue dessus puisque justement, tu as mis du temps à croître. C'est quoi ton point de vue au niveau de la revente? Je pense que tu as un autre state of mind maintenant que tu as construit un beau bébé. Tu peux voir ce que ça peut valoir. Et donc, du coup, c'est plus la même conversation. Mais entre le début et maintenant, est-ce que tu conseilles aux gens de garder le plus longtemps possible? Est-ce que tu leur conseilles d'ouvrir assez rapidement? C'est quoi ton...
Là-dessus, c'est hyper compliqué parce que c'est forcément propre à chaque boîte, tu vois. Mais moi, pour rien au monde, je changerais de ce que j'ai vécu. Pour rien au monde. Parce que j'ai appris tous les steps, tu vois. Et c'est vrai que peut-être que si demain j'ouvrais une autre boîte, je passerais par une autre voie, tu vois, parce que je sais que le temps que telle ou telle chose prend, tu vois. Donc il y a des choses j'aurais coupé, j'aurais dit non, ça on délègue, ça on fait pas, ça on y va, ça on prend, ça on va gagner 5 ans, tu vois.
Donne-nous justement tous ces petits exemples pour que les gens passent par la case rapide.
Déjà souvent t'es là, t'hésites à embaucher en tout cas des tops, tu vois. Et moi pendant très longtemps je me suis mal payée, je te le dis, et j'ai rencontré mon directeur co qui lui il était à l'époque il gérait 2000 salariés dans une usine en Chine pour venir chez moi où on était 6, tu vois ce que je veux dire, c'est quoi le délire. Un, il a kiffé le projet. Et deuxièmement, il a décidé au début donc de couper clairement dans son salaire. Okay. Et on s'est donné 6 mois. Okay. Parce que il me dit, si au bout de 6 mois, j'arrive pas à faire ce que je te dis, c'est que je brasse du vent. Donc okay. C'est qu'il faut virer, comme virer.
Okay.
Et donc en fait finalement, il avait 6 mois pour faire ses preuves et il a fait plus que fait.
c'est un bon signal ça quand tu veux bosser avec un commercial. J'espère, enfin mon avis, d'avoir des BSPCE ou quelque chose comme ça, je pense. Sinon plus, mais c'est un bon exemple que tu donnes. C'est que un bon commercial justement, peut-être qu'il cuttera pas à chaque fois dans son truc, mais au moins dans les 6 mois, il sait que s'il fait pas ce qu'il a à faire, c'est dehors, quoi.
Parce que tout le monde dit ouais, t'inquiète, je vais rentrer, je vais vendre, machin, etc. Même lui, avec 20 ans d'expérience, il a eu des difficultés, plus de difficultés qu'il imaginait, tu vois, au début. Et puis après, une fois que c'était lancé, après c'était un bon duo et c'était easy. Mais embaucher peut-être quelqu'un de... Alors, les gens disent que j'ai cette capacité de savoir bien m'entourer. Parce que je suis pas dans l'ego. Si je sais pas faire quelque chose, je suis autodidacte, j'adore apprendre, mais si tu sais pas faire quelque chose, il faut laisser aussi. Donc, j'ai ce défaut-là, c'est j'aime apprendre au début, donc je vais faire. Mais ensuite, je dis, ah non, là, je suis pas bonne, là, je suis pas bonne, là, je suis pas bonne. Donc, ça, il faut que je le confie à quelqu'un. Et je cherche pas à persister dans ma bêtise, tu vois. Par exemple, là, c'est exactement ça. Je cherche pas à persister dans ma bêtise. C'est-à-dire que ça, c'est toi et t'es bon pour ça et je te paye pour ça et tu le fais bien.
Et ça, c'est vraiment, c'est une clé que je vois, mais chez vraiment, encore une fois, tous mes potes qui entreprennent et qui sont vraiment dedans, c'est ce qu'ils font tous. Et en mode easy, c'est vraiment, bon, vas-y, il faut faire une landing page, il faut faire ça. Vas-y, trouve-moi un mec sur machin, trouve-moi un mec sur ça. Et en 2 semaines, c'est plié. Or, des fois, je vois des first-time entrepreneurs qui vont prendre 4 mois pour faire une landing page qui va être flinguée, en fait, juste parce que ils n'ont pas cette capacité.
L'ego.
Ouais, c'est ça.
L'ego ou en fait la peur de déléguer, que la personne ne fasse pas assez bien. Ouais. Mais en gros, si la personne, elle est hyper qualifiée,
elle fera mieux
que toi. Après, j'avoue que ça a fait partie aussi des raisons pour lesquelles ma première équipe, elle a sauté parce que...
On fait un petit break très rapide. J'espère vraiment que vous profitez de cet épisode No Bullshit avec Kelly. J'espère que vous avez votre stylo et vos papiers parce que, comme vous pouvez le voir, ça va très très vite. Beaucoup d'informations, beaucoup de richesse dans son discours, et ça permet à beaucoup d'être beaucoup plus humble dans le travail qu'il y a à fournir pour arriver à son niveau. Je profite un peu de ce moment pour vous parler de ce nouveau format qu'on a lancé qui s'appelle Lucky You. C'est un abonnement mensuel de 6 €, une somme symbolique. Abonnez-vous à la newsletter, prenez l'abonnement et tous les mois vous recevrez au minimum 2 vidéos par mois où on invite des experts pour parler de différents sujets qui sont là encore bien précis pour vous pousser à l'indépendance financière. Si vous y êtes déjà, c'est pour l'améliorer, pour parler des différents champs de possibilités en investissement. Voici un petit extrait de Lucky You.
Bah en fait, aujourd'hui, il y a plein de façons d'investir dans l'art. Donc, tu peux investir dans l'art classique, donc acheter un Monet, un Basquiat, un Warhol, justement via des boîtes comme Masterworks. Et donc, Masterworks, ce qu'ils font, c'est assez simple, c'est qu'ils achètent, un tableau, ils le divisent en shares, enfin comme si tu avais des actions d'une boîte, mais sauf que là, c'est des actions d'un tableau. Le tout est sur la blockchain, mais c'est pas des cryptos. Donc en gros, si tu veux, ils utilisent la blockchain, mais il n'y a pas de notion de crypto, c'est des vrais dollars, quoi. Du coup, tu reçois des actions de ce tableau, et ensuite tu peux faire une exit, donc c'est-à-dire que tu peux revendre tes actions, soit s'ils revendent le tableau. Donc en gros, ils vont demander à leur communauté qui a investi, est-ce que vous êtes OK pour vendre ce tableau avec 20% de plus-value, enfin j'en sais rien, j'ai n'importe quoi. Ou alors, le deuxième truc qui est vachement intéressant qu'ils ont sorti il n'y a pas longtemps, c'est qu'en gros, ils ont fait une place de marché en interne. Et même avant que le tableau soit vendu, tu peux revendre tes actions à d'autres personnes qui voudraient les acheter. Parce que tu vois, il y a un nombre limité. Donc forcément, après, il va y avoir de la revente. Et donc ça te permet justement d'ajouter un peu de liquidité sur un marché qui avant était très illiquide, quoi.
Voilà, ça vous donne une bonne idée du contenu qu'on vous propose sur Lucky You. Vraiment pour améliorer un peu vos finances personnelles, parler de bourse et de stock, et tous aller dans la même direction. Prenez votre abonnement et allez, on reprend l'épisode avec Kelly.
Oui, j'ai grandi en tant que manager, j'ai grandi en tant que... En fait, je suis devenue chef d'entreprise, c'est pas pareil. Et là, les ressources humaines, c'est pas pour moi. L'ARH, c'est pas pour moi. Parce que les gens savent, en plus, quand ils viennent ça fait 1, 2, 3, 4 ans qu'ils sont avec toi, ils savent sur quel bouton appuyer, tu vois. J'ai mal au ventre, la crise de la trentaine, je vais rester, je pars. Wesh, pose-toi. J'embauche ou j'embauche pas? Wesh, tu sais plus sur quel pied danser, donc tu te concentres plus sur ça que sur ton objectif après, tu vois. Moi, je m'excusais des fois de demander des choses. Les opportunités. J'ai déjà entendu une fois, on n'a pas la photo. Elle dit ça à une journaliste, ce sera pour une prochaine. What? Non, tu vas me faire un dessin, tu vas me faire un truc 3D, tu vas faire quelque chose, mais tu vas me trouver une solution. On ne regarde pas elle. Tu vois? Parce qu'ils n'ont pas cette. Tout le monde n'a pas cette vision-là de se dire que tout est important, chaque petite chose est importante. Il y en a, ils étaient peut-être aussi au max de leur capacité, tout simplement.
Ils avaient besoin peut-être d'une formation autre ailleurs.
C'est comme quand tu apprends à conduire.
Ouais.
Moi, j'ai appris à conduire sur une C3. Et mon premier achat, ma première voiture, c'était une Polo GTI. Ça ne se conduit pas pareil. 90 chevaux, 180, ça ne se conduit pas pareil. Donc, ma boîte, de 2012 à 2015, c'était un C3. Ensuite, de 2015 à 2017, c'était un GTI, tu vois. C'était une Polo. Maintenant, on est sur autre chose.
Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et du coup, comment ça s'est passé ? Donc, vous êtes passé quand même, vous étiez à 3. Vous êtes redescendu jusqu'à 3 personnes ?
Ouais, on est redescendu à 3 personnes.
Comment ça se passe quand tu te sépares de ces gens-là ?
En fait, si tu veux, ça se passe que finalement, tu as une sorte de... un putsch dans ta propre boîte. Tu arrives, il y en a une, elle négocie gentiment, elle négocie sa rupture conventionnelle. Donc, on se dit, OK, pas de coup de Trafalgar. Toi, moi, pas de coup de Trafalgar, c'est bon. On a bossé, on a fait 3 ans ensemble, pas de souci. Et puis, elle part le vendredi. Le lundi, tu as embauché quelqu'un, justement, une killeuse qui arrive, qui est plus jeune, de 5 ans plus jeune, qui arrive. Elle arrive pour gérer une équipe. Premier jour, elle se présente. Le lendemain matin, tout le monde est en arrêt.
What?
Hey, moi, j'ai vécu des aventures, hein, faut pas croire. Ça a l'air lisse comme ça de Dexter, mais ça a été une claque. La stagiaire se met en arrêt. Et l'apprenti se met en arrêt.
J'ai jamais entendu parler d'une stagiaire se mettre en arrêt. Jamais, c'est la première fois.
Ah, forcément, t'es vénère, t'appelles l'école, tu dis non, mais c'est mort, je veux plus la voir. Ah, et l'apprenti disparaît. L'apprenti disparaît, ça donne d'autres choses qui sont pas super sympas, mais qu'un jour je raconterai quand cette affaire sera, cette page sera tournée, tu vois, parce que c'est toujours pas tourné. Et donc là, tu te rends compte que t'as plus personne et t'as une fille qui avait juste à peine les mots de passe parce qu'on t'a dit, ouais, j'ai fait un fichier, il y a tout ce qu'il faut, il y a 5 choses dedans, il y a 5 mots de passe. Donc la fille, elle arrive. Et bah, tu sais quoi, la fille, elle se démonte pas. Ok, c'est pas grave. Bon, bah, déjà, il me faut une binôme, il me faut une apprentie pour à partir de septembre. T'inquiète, je vais gérer juillet et août. T'es sûre ? Ouais, ouais, t'inquiète, je vais gérer juillet et août, qu'elle me dit. Et là, elle gère. Elle rappelle tout le monde. Elle est spécialisée en marketing d'influence. Elle rappelle tout le monde. Elle reprend le dossier, elle se présente, etc. Elle fait un travail de fond. Elle structure les postes pour les vacances. Septembre, elle a son binôme. Et voilà. Et c'est parti.
Je vais te raconter une expérience personnelle pour nous qui est très similaire. C'est tu as ton équipe de base. On a commencé à faire des recrutements, dont un en R&D, qui était un élément beaucoup plus fort que tous les autres. Beaucoup.
Ça a déstabilisé toute la boîte.
Et en fait, je pense que la boîte était déjà déstabilisée parce que notre management n'était pas ouf, tu vois.
Mais c'est ça l'élément déclencheur qui fait que ben, les gens, ils se sentent, tu sais, inconfortables sur leur place. Ouais. Ils ne savent plus comment se positionner. Peut-être qu'ils sont encore bons, mais tu vois, il y a une différence de niveau telle qui fait que même pour celui qui est en haut, c'est très difficile de les amener.
Bah, en fait, c'était surtout ça. Et je pense que c'est ça. Donc, de base, quand la personne est arrivée, il y avait déjà c'était pas très, très bien géré, toi, de notre part. Mais en plus de ça, elle-même se rendait compte de la différence du niveau qu'elle avait avec les autres. C'est-à-dire que nous, on s'en rendait compte. Elle s'en rendait compte.
Et les autres s'en rendaient compte.
Ouais, c'est ça. Elle me disait, tu as communiqué avec nous, tu vois. Et ce que c'est je peux comprendre, c'est que, en gros, quand tu te rends compte que tu as un as dans ta team, cet as-là se rend compte qu'il faut qu'elle soit entourée d'as pour pouvoir aller c'est plus ça. Loin et faire mieux. Et le coche qu'on a raté, c'est qu'on n'a pas su se séparer.
De l'équipe de base.
Ouais, c'est ça, assez tôt. On aurait dû faire vraiment beaucoup plus tôt et passer à un mode de sous-traitance, etc., tu vois.
Mais c'est parce que ça s'appelle la loyauté. Ne te reproche pas d'être loyal. Moi, la loyauté, moi, tous les gens qui ont travaillé chez moi, avec qui ça s'est bien passé, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ben, ça se ressent parce que quand tu as écrit « Secret de Loli » sur ton CV, ben, ça commence à payer, tu vois. Sauf que ce que les gens, il faut qu'ils sachent bien, il faut qu'ils l'entendent, c'est que si tu as écrit « Secret de Loli » mais que tu n'as pas la lettre de reco qui va avec… C'est qu'il y a un loup dans la bergerie. Je préfère le dire. Il y a un loup dans la bergerie. Donc, non, c'est ça. Mais la loyauté, c'est très bien. La loyauté, c'est très bien parce qu'ensuite, tu vas t'entourer de gens qui seront tout aussi loyaux que toi et avec les mêmes valeurs. Les mêmes valeurs et les mêmes goals. Et moi, mon objectif, c'était voilà, 1 million d'euros, rentrer chez Monoprix à minima. Et ensuite, il m'a dit, mais tu veux qu'on en fasse quoi de la boîte ? Tu veux aller où ? J'ai dit, je veux tout le gâteau.
Hey, j'aime quand tu parles comme ça.
J'ai dit, je veux tout le gâteau. Je veux les coiffeurs, je veux la moyenne distribution, je veux que les clientes, elles se sentent bien, je veux la communauté Insta, je veux tout le gâteau. Et ensuite, une fois que j'ai pris mes parts ici, je pars à l'international. Pourquoi ? Parce que je veux pas qu'un gros, il arrive et qu'il dise, bon, ben voilà, il fasse une copie et ça y est. Non, c'est mort. Ouais. Et un petit, il peut. Franchement, voilà. Il y en a un, s'il fait une levée de fonds, il y a match. Mais, non, mais j'ai sacrifié 10 ans de ma vie. J'ai sacrifié 10 ans de ma vie. Au bout d'un moment, en fait, faut assumer. Faut assumer ce que tu veux et ce que tu veux pas. Et c'est pas un mal de dire, hey, je suis bien là, je veux pas faire plus. Moi, c'est pas un mal. C'est vraiment, tu sais, c'est comme un escalier, la vie, tu vois. Et il y en a, ils vont s'arrêter au 5e. Mais moi, je veux le rooftop.
Et c'est ça qui est bon. C'est ça qu'on aime.
Ouais, mais c'est il y a des gens, ils sont au 5e, ils ont une vue panoramique et ça leur va bien et je suis content pour eux. Donc quand j'entends certains de mes concurrents dire oui, il y a pas que l'argent dans la vie. Bien sûr qu'il y a pas que l'argent dans la vie. Bien sûr qu'il y a pas que l'argent dans la vie. Ou ouais, moi j'ai pas besoin de mettre des robes roses à paillettes. Wesh, sois professionnel pendant que tu perds du temps à dire ces bêtises-là. Moi j'avance.
Et ça c'est un vrai sujet, mais on va en parler vraiment très de façon très courte, c'est les gens, et là j'espère que tous ceux qui nous écoutent et qui se rendent compte qu'ils sont dans cette situation vont essayer de changer, parce que je l'ai vu dernièrement, maintenant je suis toujours sur Clubhouse un petit peu, d'ailleurs je vous invite tous à venir sur Clubhouse.
mais j'ai acheté un iPhone juste pour ça, je crois.
Ah ouais, non. Bah, attends un petit peu, je crois que dans 2-3 semaines là ce sera bon.
Ah bon. Ouais.
Mais il y a un truc que j'ai remarqué, et du coup c'est pareil pour le business. C'est les gens qui passent plus de temps à observer ce qui se passe chez les autres, bon, c'est chez
que
l'humain,
faire, que
se
faire.
Concentrer, se focus sur son business, sur son contenu, sur ces choses-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces gens-là sont doublement frustrés. D'abord, ils sont tout en train de regarder chez le voisin et critiquer, analyser, et voilà, ils perdent du temps. Et deuxièmement, ils ne comprennent pas pourquoi ceux qu'ils observent continuent à prendre de l'avance. Bah oui, eux, ils sont focus sur leur business.
C'est ça.
Et il y a un truc qui est important aussi, c'est les gens qui évoluent dans un secteur de marché, se disent, voilà, ça, c'est mes concurrents. En fait, réfléchis pas comme si tu avais des concurrents. Continue à ta vision des choses. Vous êtes dans le même secteur, vous pouvez faire tous les deux des produits Curly, par exemple, mais ne les vois pas comme des concurrents. Parce que quand tu arrêtes de les voir comme des concurrents, toi, tu continues à innover. Et en fait, il vaut mieux être la personne qu'on copie que celle qui est toujours constamment à la traîne derrière. Parce que tu continues à innover et tu fais plaisir à tes clientes.
Exactement ça. Moi, je suis focus sur mes clients.
Ouais.
Je suis focus sur mes clients. Je suis focus sur mes clients et pas sur autre chose, quasiment. Sauf sur les benchmarks, tu n'as pas le choix. Tu vois ce que je veux dire ?
Non, bien sûr.
Mais en vrai... Et là, c'est ce que ma nouvelle équipe, c'est ça. C'est ce qu'ils m'ont dit. Toi, tu es là pour nous dire où on va.
Ouais.
Nous, on met en moyen les actions, en moyen. Enfin, ouais, c'est ça. On mène les actions pour arriver au but que tu te fixes et que tu nous fixes.
Ouais.
Donc, si c'est Monop, c'est Monop. Si c'est Leclerc, c'est Leclerc. Nous, on met en place les actions pour arriver à ta vision.
Ouais.
Et moi, ça me laisse le temps de me concentrer sur l'objectif, sur ce que je veux faire, sur là où on va aller, et en fait, ça me libère. Et y a eu un moment qui était très difficile pour moi, mon collaborateur, même le noyau dur de la boîte, parce qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup sur les épaules. On est fatigué, on est épuisé, tu vois, c'est physique, mais des fois, c'est limite moral. Et en fait, moi, il m'a regardé, il m'a dit, non, mais c'est mort, en fait. Toi, t'es pas là pour aller chercher des feuilles, aller acheter des cartouches d'encre, parce que la première équipe, c'était ça. Hein. Moi, j'étais chauffeur Uber. Je faisais ça. Darty, je suis en train de réparer la machine à... Ah, il n'y a plus de café. Ah, il n'y a plus d'eau. Ah,
yes. Ça me rappelle moi, ouais.
C'était horrible. Horrible. Je me posais et je travaillais que 2 heures. Parce que j'étais toujours... En fait, tu es dans l'opérationnel. Et en fait, moi, ce que je cherche, et ça fait un an et demi que je cherche à mettre ça, c'est à me retirer de l'opérationnel. Et pour ça, tu dois déléguer. Et en fait, tu te rends compte que tu es comptable, que tu es assistante, que tu es à la logistique. Et en fait, du coup, bah, les postes, on les remplace par des gens qui sont spécialisés là-dedans.
Ouais.
C'est pour ça qu'on est arrivé à 18. Mon directeur co, là, maintenant, il a son assistante commerciale. Il en avait besoin. Il a autre chose à faire qu'à saisir une commande plutôt que de... Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais. Moi, j'ai une question.
Il me dit, je suis le seul commercial à ne pas avoir prospecté, à ne pas être parti en tournée.
Enfin, c'est ouf.
Pas le temps, quand t'es dans l'opérationnel.
Ça me fait penser à un autre point, du coup, qu'il faudrait qu'on aborde, c'est celui du recrutement. Quand on commence, on recrute des gens qui sont pas forcément au niveau et on pense que...
on va les former, on va les faire arriver.
Exactement. Or, j'ai compris très vite qu'en réalité, quand on a les moyens, et même si on n'a pas trop les moyens, vaut mieux mettre un gros billet sur un C-level. Il vaut mieux avoir en gros une très petite team de gens super performants.
Et
en
fait, c'est super performant.
Et ce truc-là, en fait, c'est un truc que j'ai appris en évoluant dans le milieu des startups. C'est ce que tous les mecs d'HEC font. Quand tu regardes bien les mecs d'HEC, ils sont 4-5 et ils te démontent une boîte et te la font monter. Et ça, c'est parce qu'ils ont compris qu'il fallait avoir une petite team. Toi, tu es sûr de ce que tu sais faire, mais tu vas t'entourer de mecs ou de femmes qui sont encore plus forts.
Alors, chacun a son excellence. Tu vois, c'est identifier l'excellence de la personne en face de toi, ouais, et de voir si elle correspond à ta boîte. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Après, je te cache pas que au début, c'était un petit peu difficile de faire du charme à des filles qui sortent de bac plus 5, de super école, etc. C'était un pari, hein. Amélie, franchement, venir chez nous, elle a les cheveux raides, elle est blanche, elle avait juste un léger attrait pour la cosmétique naturelle, mais elle n'était pas dans le bouquet.
Dans la cible, elle n'était pas dans la cible.
Elle n'était pas dans la cible, mais justement, c'est pas parce que tu n'es pas dans la cible que tu n'es pas excellent. Et juste, elle avait encore un regard encore plus extérieur, qui fait qu'elle prenait de la hauteur. Parce que quand ton ancienne qui gère le marketing d'influence, elle est là et sur les salons, elle se prend en photo avec les influenceuses, c'est beaucoup moins sérieux qu'une qui n'en a rien à faire. Son objectif, c'est de placer un produit dans la vidéo, combien, machin, etc. Tu vois, alors les autres à photo souvenir, j'ai rencontré Cici et Mua aujourd'hui. Tu vois le truc ou pas?
Je vois tout à fait.
Je vois. Et ça change tout. Ça change tout. Et voilà, après, c'est vrai que dans notre stratégie, quand je me suis levée un matin et j'ai dit, bon, on va installer une stratégie de marketing d'influence avec des micro-influenceurs, on m'a regardée, on m'a dit, ah, mais elles vont... Tu sais, comme si tu avais honte, elles avaient honte. J'ai eu une équipe qui a eu honte de proposer le peu qu'on pouvait proposer. Et du coup, elles n'étaient pas à l'aise et du coup, bah, on avait beaucoup de refus.
C'est bon.
Aujourd'hui, bah, quand on vient en tant que secret de Loli, bah, on a moins de refus, il y a des négociations. Tu vois, alors après, on voit, on paye ou on paye pas, on paye plus, on paye moins. Mais c'est beaucoup plus fluide. On a beaucoup grandi et le marketing d'influence nous a aidés. Alors que là, je te dis, les chiffres qu'on fait, c'est sans sponsoring.
C'est fort parce que pour moi, c'est le syndrome de l'employé qui, surtout quand il est pas du tout dans le délire entrepreneurial, qui comprend pas, par exemple, quand il voit comment tu fais ton produit 100% naturel, par exemple, et que tu le vends à 50€, par exemple. Tu vois, je te donne un exemple farfelu. Tu vends, je sais pas moi, un rouge à lèvres à 50€, et il voit que quand pour le faire, ça te coûte, je sais pas moi, 7€. Et en fait, il a du mal à aller vendre ce produit-là. Et toi, tu dis, en fait,
non,
tu te rends pas compte, en fait, de la valeur ajoutée. C'est ça, du branding que tu investis derrière. Il y a beaucoup de choses qui entrent dans ce rouge à lèvres, et c'est pour ça qu'il coûte plus cher. Mais en fait, le fait que tu aies à lui expliquer et qu'il ait du mal à aller vendre le produit, c'est ce
qu'il aura du mal lui-même à l'expliquer à la cliente finale, bien sûr.
Exactement. Et du coup, il y a ce décalage qui se crée, qui est assez chiant. Mais ouais, pour revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, et ce que tu as dit aussi, c'est que ce que j'étais en train de dire, c'est surtout, j'ai pris l'exemple d'HEC, mais pour dire que en réalité, il y a une technique, en tout cas, qui est là, c'est d'aller, quand tu vas chercher tes premiers employés, va chercher des gens qui sont super calés.
Ouais. Ils sont pas mais ce qu'on va ce que les gens vont te répondre, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de les embaucher.
Et ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, ça va dépendre de ton, ça va aussi dépendre de ton du moment auquel tu commences ta boîte. Si tu la commences en tant qu'adulte, et quand je dis adulte, c'est vraiment bien avancé, tu vois, c'est plus compliqué d'aller les chercher quand t'as pas de thunes. Par contre, si t'es étudiant, que t'es il y en a beaucoup qui nous écoutent, qui ont 23 ans, 25 ans.
On est tous, vous êtes tous au même niveau et on fait tous un effort.
Ça. Et à ce moment-là, c'est là où tu peux aller chercher des mecs qui sont en train de finir, mais qui ont les capacités, qui ont déjà les moyens. Ils n'ont pas besoin d'être des top écoles, mais ils ont une expérience. Ou bien tu vas aller chercher quelqu'un qui est déjà entrepreneur de son côté. Il n'a peut-être pas fait ces écoles-là, mais il a l'expérience requise. Parce qu'il peut te prouver par A plus B qu'il a fait. Et c'est de ces gens-là dont tu t'entoures parce que tu vas avoir besoin d'une tête pensante et tout le reste, ça doit être de l'exécution. En fait, tu as une tête pensante et on a tous un peu la même réflexion, on sait où on veut aller. Mais par contre, tu as besoin des gens qui sont là pour l'exécution. Et j'ai l'impression, en tout cas, que ta transition de la première team à la deuxième team, ça a vraiment été, en fait, maintenant, on passe à l'exécution.
C'est ça, c'est à l'opérationnel déjà. Et donc, c'est pour ça qu'elle est, quand elle est rentrée, Amélie a été directrice du marketing opérationnel. Tu vois la nuance ?
Ouais.
Il y a plein de choses, mais par exemple, moi, je sais que je ne suis pas bonne en RH. Mmh. Tu sais, il faut savoir. Du coup, j'ai pris un RH.
Ouais.
J'ai pris un RH à temps partagé. Aussi simple que ça. Et là, le gars, il arrive et puis il te dit, oula, attends, il manque des process déjà. On va se calmer. Il y a ça. On va faire des réunions annuelles. On va faire des objectifs. On va faire ci, on va faire ça. Et puis, si tes employés ont besoin de parler, je suis toujours à l'écoute. Et puis, moi, en fonction du profil, je vais te dire oui ou non, tu vois. Si je sens quelque chose ou pas. Et après, mon directeur co, lui, il s'est vraiment impliqué dans le process parce qu'en fait, chat échaudé craint l'eau froide. On ne voulait pas répéter le même truc.
Top.
Ou parfois, même à diplôme équivalent, c'est l'état d'esprit. Même avec plus d'expérience, c'est l'état d'esprit de la personne qu'on avait en face. Maintenant, on recrute beaucoup chez Secret Loli en fonction de l'état d'esprit parce qu'il faut imbriquer avec les autres.
Hein. Oui.
Donc, tu peux avoir un top player qui est surqualifié. S'il a un esprit qui ne va pas avec le reste de l'équipe, ça va merder. Donc, en fait, là, on est obligé vraiment. Les gens, ils passent un entretien téléphonique. J'ai l'impression, j'avoue, que tu rentres à la CIA. Mais en vrai, c'est plus le mood, tu vois. C'est plus le mood de la personne. Et là, on a recruté, par exemple, une comptable groupe parce que maintenant, j'ai monté un groupe, tout et tout. Enfin, bref.
Tout ça.
Voilà, tout ça, parce qu'au bout d'un moment, il faut se structurer. Et elle m'a dit, mais j'ai jamais vu ça ailleurs. Les gens, ils sont d'une bienveillance. La personne, elle a 50 ans, elle a 30 ans d'expérience. Elle a bossé dans des gros groupes. Elle me dit, j'ai jamais vu ça ailleurs. Elle me dit, ici, c'est le monde des bisounours.
Mmh.
Parce qu'on a recruté des gens qui étaient. Et donc, il y a une bienveillance. On est bien à venir travailler chez nous.
Ça, c'est top. J'ai deux dernières questions pour toi. La première, c'est tes ambitions internationales. Je pense aux pays anglophones. Est-ce qu'il y en a ? Ouais.
Je pense aux pays anglophones. Après, je pense à aller dans un marché ultra concurrentiel qui sera à terme les États-Unis.
Ouais.
Mais c'est là où je pense que la levée de fonds sera nécessaire.
Ouais.
Ou bien
ma deuxième question d'ailleurs.
Ou bien le rachat ou tout ce que tu veux. Je pense que pour partir à l'international, il faut déjà être roi chez soi, tu vois. Donc, c'est hyper important de vraiment mapper la France. Commencer l'Europe avant de partir et traverser l'Atlantique.
Alors, j'allais dire, il y a un truc qui est aussi important, c'est qu'il y a des marques de beauty qui font beaucoup, beaucoup d'argent en Afrique. Ils sont là, ils prennent le marché. Est-ce qu'il n'y a pas une sous-marque à créer, enfin une deuxième marque du coup pour le continent africain à créer ? Est-ce que c'est pas peut-être plus compliqué pour toi en termes de logistique ? Est-ce qu'il n'y a pas un distributeur qui pourrait s'en charger ?
Si, alors là, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train nous, on prépare notre terrain parce que on refait la même chose pour l'Afrique que ce qu'on a fait en France. Mais par contre, pour l'international, on veut pas le faire parce que nous, on a fait pierre par pierre ici. Ouais. Alors que là, effectivement, on veut un et boum, demain, on est dans 200. Tu vois, c'est ce qu'on veut. Et pour ça, le terrain, il se prépare. Pour ça, il faut préparer ta logistique. Trouver ton partenaire, préparer tes douanes, préparer tout ça. Une fois que ce sera prêt, là, on ira. Donc oui, on a commencé à poser des billes sur certaines choses. On fait des tests pour voir là où ça part pas. Ouais. L'Afrique, ça, c'est sûr, on va le développer, c'est sûr. Il n'y a pas de question. Mais justement, on regarde si c'est mieux de faire de l'import sur local. C'est compliqué. Donc, ce sera forcément effectivement depuis la France vers l'Afrique. Et pour ça, il faut structurer, voir quel pays, pour essayer de trouver le meilleur distributeur qui puisse inonder tout d'un coup le marché, la publicité, la communication.
Okay.
Parce que ça, on ne peut pas le faire. Et en plus, à Rome, tu fais comme les Roumains. Donc, moi, je ne veux pas arriver avec mes sabots de…
Occidental.
Afro-française.
Oui.
Je veux pas ça. Tu vois, et au bout d'un moment, faut être poli, il faut être respectueux des coutumes des gens, des méthodes d'achat, des méthodes de communication. Tu n'arrives pas pour leur dire, ouais, voilà, je suis là pour vous apprendre la vie.
Par contre, il y a quand même une partie éducation qui va être intéressante pour toi parce que.
Bien sûr, pédagogie. C'est pédagogie.
Ouais, pédagogie.
Tu vois? Et mon directeur co, lui, il a bossé chez MGC, qui était le premier importateur de produits sur l'Afrique.
Ah ouais.
Donc les codes, on les a. En vrai, les codes, on les a. Et c'est pour ça qu'on n'y est pas encore allé. Parce qu'on est en train de structurer pour pouvoir y aller.
Ah, c'est top. Ok. Ça, c'est une bonne réponse. La dernière chose que j'avais, mais tu en as déjà parlé, donc c'était la levée de fonds ou bien le possible rachat. Moi, je te dirais. Tu as sûrement pensé, au lieu de faire un rachat, un cash out. Du coup, ça te permet de passer de l'autre côté sans avoir à vendre toute ta boîte. Après, tu fais comme tu le souhaites. Mais donc c'est un truc que tu regardes. La levée, en tout cas, c'est un truc auquel tu penses très fortement.
Moyennement. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit, j'ai beaucoup de liquidités officiellement.
Ouais.
En toute transparence, et je l'avais annoncé l'année dernière et je l'annonce, les objectifs 2010 de Secret Loli, c'est de faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année.
Okay.
On est très ambitieux, tu vois. Ouais. Mais l'année dernière, ça a payé, et on est dans les chiffres. On tient bon les chiffres pour faire 10 millions. Donc, une fois que tu fais 10, c'est pas comme tu fais 5, c'est pas comme tu fais 1. On est d'accord.
Là, tu vas parler sur des vrais trucs.
Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, avec mon directeur, avec mon bras droit, on fait un prévisionnel à 3 ans. Qu'on met éventuellement à jour. Donc, de 2017 à 2020, on l'a fait.
Ouais.
On a dépassé, c'est vrai, 2020. Et donc, on a 1 an et demi d'avance. Donc, autant y aller.
Ouais.
Et puis, le jour où on ouvre, tu vois.
Ouais.
Mais déjà, le fait de se structurer, créer un groupe, moi, sortir de l'opérationnel chez Secret de Loli, monter au groupe, voilà. La diversification aussi de mes activités, parce que là, je me suis lancée dans l'investissement immobilier pendant 2020.
Ah bon? Ok.
Donc voilà, j'ai fait beaucoup d'investissements immobiliers à l'international que je vais recouper notamment sur des choses intéressantes. J'investis beaucoup là-dessus. Et puis, je vais même avoir ma propre émission normalement sur BFM Paris, concernant les entrepreneurs. Donc, le but, c'est de me diversifier, de montrer aussi aux investisseurs que je suis polyvalente. Et que je sais gérer ma boîte et d'autres activités, et que miser sur Secret de Loli et Kilimassol, c'est un investissement qui vaut le coup, en fait. Il n'y a pas que la boîte, il y a moi aussi.
Et c'est important. Et
les gens... Oui, parce que je ne veux pas qu'on me sorte.
Bien sûr.
Donc, en fait, je veux que mon visage, via ce genre justement d'action, en termes de communication, de storytelling et de... Et justement, avoir ma propre émission, c'est énorme. C'est énorme, tu vois. Et du coup, ce sera plus compliqué d'effacer Loli.
Bien sûr.
Et plutôt que les rachats qu'on a vus en France, surtout en France, je trouve, on arrive, on met un billet, on vire tout le monde et on met effectivement des tops, mais tu perds l'essence, l'âme de la boîte, tu perds le lien avec la communauté.
Ça. Après, normalement, si tu ne te fais pas racheter par un industriel et si c'est plus un... un fonds VC, ils sont, enfin, il y a, vu ce que t'es en train de me dire, c'est sûr qu'ils vont te garder, parce qu'ils ont besoin, en fait, maintenant ils comprennent, tu vois, ils vont t'offrir le cash out avec grand plaisir, et ça vaudra, mais à partir du moment où, de toute façon, t'as la barre des 10 millions, t'auras, mais aucun.
T'as compris. Ouais. Maintenant, on joue pour jouer. Après, moi, c'est pour ça que je vais jamais dans un casino. Je te le dis tout de suite. Je serai le genre de meuf à faire tapis, tu vois. Donc, laissez-moi tranquille. Je suis trop kamikaze. Enfin, pas kamikaze avec l'argent, parce qu'en vrai, voilà. Mais je suis trop. Moi, je joue pour jouer, tu vois.
Et
pour gagner. Donc, en fait, autant faire les 10 millions. On se pose. Voilà. Après, je te dis, tout comme j'avais en vision Monoprix depuis un bout de temps, mais je ne l'ai jamais déclaré officiellement, et d'ailleurs, c'est eux qui nous ont contactés, tu vois. Eh bien, là, tu vois, si je dois être rachetée, je sais par qui je vais être rachetée. Maintenant…
C'est des caring, des trucs comme ça.
Non. Ouais. Non, maintenant, tu vois, je suis en train de me positionner pour faire en sorte que… Salut, c'est moi qu'il faut racheter.
Ok.
Et… Tu m'aurais posé cette question il y a 5 ans. Ah non, je veux pas être achetée. En fait, je veux être achetée parce que je veux une liberté. Je veux pouvoir avoir les moyens aussi de mener la boîte où je veux. Et surtout, j'ai sacrifié déjà, enfin, j'ai sacrifié. Non, j'ai donné 10 ans de ma vie, tu vois. Donc maintenant, ça les vaut, en fait. Si quelqu'un me fait un chèque, ça les vaut. 10 ans de ma vie, j'ai fait des trucs de ouf pour ma boîte.
C'est important ce que tu dis. Notre pari à nous, c'est de bosser et de se payer rien pendant quasi 10 ans pour avoir la 11e année ce chèque qui va changer notre vie. C'est la différence entre nous et les salariés. C'est qu'on se bat pour ce chèque qui est censé changer notre vie. Et la différence, c'est qu'on prend des risques énormes. On prend le risque de fermer nos boîtes, de se retrouver au tribunal, de gérer ci, ça. Et donc, je pense qu'il faut que les salariés se rendent compte que, si on...
N'est pas le même. Ouais. Le risque n'est pas le même. Et surtout, aujourd'hui, c'est vrai que c'est vrai. Aujourd'hui, c'est mes banquières qui viennent à mon bureau. Mes assureurs qui se déplacent. On m'offre des fleurs, des bouteilles de champagne. C'est vrai. Le regard des gens a changé. Je suis toujours la même. Par contre, il est vrai que, et c'est pour ça dans la boîte, ça se ressent, j'ai toujours dit que quand on arriverait à un certain chiffre, je veux que mes salariés aussi le ressentent. C'est pour ça que je fais les brunchs, les gâteaux, le décor sympa. Je veux que quand ils viennent, ils sachent qu'on a, on avance ensemble et que ce soit confortable pour eux. Le salarié aujourd'hui qui rentre dans ma boîte, il est bien, mais ceux qui étaient là en juillet 2019, là, et qui ont
En fait, mais ça, c'est partie du game. Et ça, c'est le truc aussi, c'est que, effectivement, quand tu passes d'une équipe à une autre, et donc tu passes d'un niveau à un autre, tes anciens salariés vont dire, ouais, mais nous, c'était la galère, il n'y avait pas de truc, il n'y avait pas de ça. Ça fait partie du game. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vas travailler directement chez, L'Oréal, dans ce cas-là, si c'est ce que tu cherches.
C'est ça. Il y a plein de choses. Et surtout, il y a encore 3 ans, j'allais à la banque, c'est bon, caution personnelle. Franchement, ils veulent mon soutien à l'orge. Hein. Franchement, alors oui, on veut bien vous prêter, mais alors votre maison, votre voiture, votre ci, votre ça. Vous voulez mes enfants aussi en caution? C'est comment? Vous allez revendre sur le marché. Donc, si tu veux, il y a ça, en fait. Il y a ça derrière. C'est qu'il y a des moments où j'ai signé des cautions personnelles et je pouvais tout perdre.
Tu vois? Et ça, c'est un truc dont on parle pas assez. Je vais juste conclure sur t'as dit un truc tout à l'heure et tant pis, il me passait. Non, je voulais juste conclure sur le fait que je vais profiter du fait que tu fasses de l'investissement pour dire que on a un nouveau format. Voilà, on a un nouveau format qui s'appelle Lucky You et c'est un format qui est payant. Et dans ce format-là, en fait, on invite des experts qui nous parlent d'investissement aussi bien immobilier que financier, la bourse et toutes ces choses-là pour aider les gens et les accompagner parce qu'on est dans ce même voyage des gens à grossir un peu leur finances personnelles, quoi, ou bien à mieux épargner, à mieux investir, etc., ce qui est archi important, tu vois.
C'est archi important et ça me rappelle une expression pour sortir de la rat race, en fait. C'est ça. Parce que finalement, c'est pas parce que tu gagnes pas 10 000 euros que tu peux pas investir. Et ça, je confirme. J'ai investi 1500 euros dans ma boîte et regarde où j'en suis aujourd'hui.
Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est la parfaite conclusion pour moi. J'aimerais bien que tu nous dises où on peut te retrouver. Adresse, Instagram, tout ça.
Ok. Alors, vous pouvez me suivre donc sur mon compte personnel, c'est Loly Spoon, LOLYSP2ON sur Instagram. Sinon, il y a bien sûr le compte Les Secrets de Loly. N'hésitez pas, on est 111 000. Rejoignez-nous. Vous pouvez trouver donc les produits en vente sur le site secretsdeloly.com. Et sinon, on est donc dans 600 points de vente, notamment chez Monoprix. On est à la boutique du coiffeur et on est rentré donc en distribution aussi chez les coiffeurs. Maintenant, dorénavant, nos produits sont utilisés au bac et c'est là où c'est un pas de ouf et en revente. Et ça, c'est dans tous les réseaux de distribution par rapport aux grossistes Coiffidis. Donc maintenant, il y a de plus en plus de coiffeurs qui utilisent les produits Secrets Loly.
C'est top. Et nous, vous pouvez nous retrouver sur Instagram. Lucky Day-du-bas podcast. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, etc. Et sur YouTube, bien sûr, sur YouTube. Donc, l'épisode va être très, très vite sur YouTube. Et voilà. Je vous remercie tous. Merci, Kelly, d'avoir passé ce temps-là avec nous.
Merci de m'avoir invité.
C'est bien. Alors, hop.